À quoi tient l'élégance d'un drapé? Nous pourrions demander cela à des couturiers ou des esthètes de la mode. Mais non, nous à CQFD, on va poser plutôt ces questions à des physiciens qui ont écrit du merveilleux dans les objets du quotidien, la physique de l'élégance, Cécile Guérin.
Et en l'occurrence, à un des co-auteurs, Benoît Roman, physicien à l'école de physique et chimie de la ville de Paris. Alors, comment couvrir un corps tout en rondeur et en courbe le plus élégamment possible à partir d'une étoffe?
Le problème, c'est de passer d'un objet qui est plat, une surface qui est plane, le tissu, et de recouvrir un objet tridimensionnel, notre corps ou autre chose. Ce qui peut se passer quand on pose tout simplement un tissu sur notre corps, il va se former des plis. Donc ça, c'est une façon de s'en sortir avec la géométrie, c'est le tissu va former des plis. Soit on aime les plis, et certains, c'était une des solutions qu'utilisaient les Grecs, les Romains, et ils étaient très sensibles à la beauté d'un drapé. Mais le tailleur, le couturier, a une autre solution pour s'accommoder du fait que une sphère et un plan, ou une surface, disons, complexe et un plan n'ont pas la même quantité de surface. Ben, cette solution, c'est de faire des découpes et de coudre les morceaux ensemble. Donc, couper ou rabouter des morceaux de tissu, c'est une manière de rajouter de la matière ou d'en enlever, et c'est une manière donc de donner une forme tridimensionnelle à un objet 2D. Mais dans le cas du tissu, il y a une possibilité supplémentaire. Un tissu, en fait, ce sont des fils qui sont entremêlés. Donc, il y a la direction de la trame et la direction de la chaîne qui est perpendiculaire. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que ces fils peuvent pivoter au point de contact et transformer donc un réseau qui serait perpendiculaire à un réseau cisaillé, un réseau comme de losanges. Et en faisant ça, on voit bien qu'on rallonge certaines directions et qu'on raccourcit d'autres directions, donc on change la distance entre les points, et ça permet de donner au tissu un degré de liberté pour s'accommoder et épouser les formes tridimensionnelles. Alors, il y a encore d'autres tissus, enfin, ils ne sont plus des tissus, en fait, c'est le tricot. Le tricot, c'est en fait une façon très différente de fabriquer une surface à partir d'un fil. C'est un fil qui fait des boucles qui sont imbriquées les unes dans les autres, et ces boucles peuvent se déformer, et à ce moment-là, il y a une élasticité extrêmement grande. On peut étirer une écharpe de manière très très grande, des bas, ça s'étire de manière extrêmement grande. Là, dans un tissu plus traditionnel, on ne peut pas déformer les boucles, les fils sont déjà alignés, les fils eux-mêmes sont très difficiles à étirer, mais par contre, on va déformer leur réseau.
Première solution donc, agir sur la manière de tisser pour déformer plus facilement le tissu. Et dans cette droite ligne, une couturière parisienne a révolutionné le monde avec la coupe en biais.
Madeleine Vionnet, au début du XXe siècle, a eu l'idée d'utiliser le tissu non pas dans le sens de la trame, mais en biais. Et en faisant ça, on voit que le tissu peut s'étirer par son poids et se rétracter perpendiculairement. Et donc, il va épouser la forme du corps, ce qui lui donne beaucoup de fluidité. On sortait juste de l'époque des corsets où, au contraire, on utilisait des tissus avec des armatures et c'était le vêtement qui donnait la forme au corps. Et son idée, c'était au contraire d'adapter le vêtement à la forme du corps. Et donc, c'est ce degré de liberté d'étirement et de resserrement, c'était justement le tissu qui s'adapte au corps au lieu de former un corps par des corsets. Donc, c'était une libération, en fait, assez importante autour de la Première Guerre mondiale.
Elle a fait une robe qui s'appelle la robe des quatre mouchoirs, c'est-à-dire ?
C'était son époque plissement, elle était très inspirée par les Grecs, et donc elle a simplement mis ensemble quatre carrés de tissus qui sont fixés ensemble et dont le poids va étirer, resserrer autour du corps. Et elle avait appelé ça la robe quatre mouchoirs, effectivement.
Oui, à force d'habiller au mieux les physiques, Madeleine Vionnet a finalement fait de la physique sans le savoir.
Et oui, et quand votre robe est froissée ou votre pantalon et que vous le repassez, c'est encore de la physique quand les plis disparaissent. D'ailleurs, ça ne marche pas avec du papier. C'est un des mystères de la physique. Donc oui, Stéphane, quand vous lanciez des boulettes de papier à travers la classe, c'était de la science.
Oui, non, mais attendez-moi, j'ai jamais lancé de boulettes de papier.
Oui, je vous crois pas du tout. Alors vous allez, bon, si jamais vous pouvez encore vous rattraper avec l'expérience suivante. Vous prenez deux feuilles de papier A4. La première, vous la froissez. Vous découpez 1/8 dans la deuxième feuille A4 que vous froissez également. Vous obtenez donc deux boulettes de papier. Regardez maintenant leur taille.
Si on prend de la pâte à modeler, on fait une boule, et qu'on prend 1/8 de la pâte de la boule, on fait une autre boule, et ben le rayon, ça devrait être la moitié. Dans le cas de la pâte à modeler, mais dans le cas de la boulette de papier, c'est pas le cas. En fait, la boulette de papier a beaucoup de surface par rapport à son volume.
Normalement, celle la plus petite, devrait être deux fois plus petite seulement, et elle est beaucoup plus petite que la grosse. Pourquoi ?
C'est justement une manifestation des propriétés très spéciales de cet arrangement géométrique du froissement. Il y a énormément de surface par rapport au volume. Et en fait, pourquoi vraiment c'est comme ça? Je pense que c'est vraiment une question encore ouverte. On ne sait pas vraiment. Les boulettes de papier, c'est un objet extrêmement complexe. Il y a énormément de désordre, mais ce n'est pas complètement du désordre. Comme je disais, c'est toujours une assemblée de plis et de lignes. Et les gens se sont intéressés à comprendre la nature de ces plis et de ces lignes, leur arrangement, la partie désordonnée de cet arrangement est encore très mystérieux.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un objet fractal ?
S'il y a des propriétés fractales, c'est-à-dire que le rapport entre la surface et le volume suit des lois qui ne sont pas les lois des objets habituels tridimensionnels. Donc quand on déplie une boulette de papier, eh bien, on voit qu'elle a été marquée. Elle n'est pas partout pareille. Il y a des endroits assez grands qui sont des polygones, en fait, en gros, et dans lesquels le papier n'a subi aucun dommage. Par contre, il y a ces lignes qui se rencontrent en des sommets et qui sont des endroits où le papier était très, très déformé, tellement déformé qu'il reste marqué pour toujours.
Et là, c'est aléatoire, la manière dont il y a ces lignes et ces points.
C'est aléatoire, oui. On ne pourra pas froisser deux fois une boulette de la même façon. Mais pourtant, malgré le fait que ça soit aléatoire, il y a, en physique, quand on a de l'aléatoire, ça peut être une force aussi, parce qu'on se dit qu'en moyenne, tout ça va avoir des propriétés générales. Mais les propriétés générales du papier froissé sont encore très mal connues.
C'était Benoît Roman, le physicien spécialiste de la boulette de papier donc et du merveilleux caché dans le quotidien La physique de l'élégance aux éditions Flammarion. Demain, Cécile Guérin, on arrête les bêtises.
Oui, on va se calmer en écoutant du violon.
CQFD sur la première.